Alors, bon, on va peut-être commencer par là. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, on a l'image dans un incident du cambriolage, c'est-à-dire une fois que j'ai cassé la porte d'entrée, j'ai gagné. La réalité, c'est qu'un incident, c'est pas une faille exploitée. En fait, c'est une série de points. C'est une série de points, une série de vulnérabilités, une série de problèmes, et qui, bah, chacun enchaîné les uns avec les autres, à la fin, font une compromission. Ce qui fait aussi le gros avantage entre guillemets de ce modèle, bah, c'est qu'il suffit d'enlever un bloc de la chaîne et c'est terminé, l'incident s'arrête.
Oh, ils ont tout fait, les gars du CERT.
Là, on dort pas la nuit.
Non, mais c'est vrai.
Bon, on est parti. On va voir pourquoi tu dors pas la nuit. Cet épisode que j'avais vraiment hâte d'enregistrer, déjà parce qu'on va parler de cyber et c'est le sujet qui me passionne. Alors, personnellement, j'en reparlais déjà, je te racontais avec mon frère. On avait fait repas de Pâques et mon frère est dans la cyber, donc forcément on a parlé de cyber. Et puis évidemment on va parler de mon deuxième sujet favori, hein, de la santé, et plus particulièrement de le pari un peu de cet épisode, c'est de réussir à un peu expliquer le sujet qui est évoqué un peu partout mais qui est très difficile finalement à comprendre vraiment dans les détails, à savoir les attaques et la cybermenace, si c'est le bon terme, sur les établissements. Tu t'es un peu, je sais pas si c'est...
Non, mais effectivement...
Ça fait un peu Star Wars, cybermenace.
Ouais, mais... je veux bien être l'arbitre du jargon, ça me va.
Ok, t'as le droit de lever la main, tu pourras corriger. Donc à la fois parler, voilà, ce que j'ai envie de, c'est de réellement comprendre qu'est-ce qui se passe quand il y a une attaque, pourquoi il y a une attaque, comment elle se passe, comment on réagit, qui est impacté, hein, c'est un peu toutes ces questions-là que j'ai envie qu'on aborde. Et en prenant un peu de recul, c'est un problème qui est systémique, c'est pas juste un établissement qui est ciblé une fois, mais on a vraiment un truc qui est récurrent. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va mettre en place à l'échelle, comment on va essayer de réduire au maximum ces attaques. D'un point de vue structurel. Bon, voilà, il y a pas mal de sujets. Peut-être pour se lancer tranquillement dans l'épisode, voilà, on a trois invités autour de la table. Je vais peut-être vous laisser vous présenter dans un premier temps et puis expliquer quel est votre rôle aussi et peut-être comment vous travaillez ensemble. Je pense que c'est important qu'on comprenne pourquoi vous êtes tous les trois aujourd'hui ici. Christophe, je crois que tu as été désigné, t'as pas le choix.
Ah, c'est moi qui commence. Donc Christophe Matler, je suis directeur de projet à la délégation au numérique en santé au sein du ministère de la Santé. Et donc j'ai la chance de co-diriger le plan CARE avec Élodie. Et aujourd'hui, notre mission, elle est de définir le contour de ce plan et des actions qui vont être déroulées à l'intérieur. Donc un plan qui va de 2023 à 2027. Donc c'est un plan qui a une certaine profondeur en termes stratégiques. Et qui a vraiment pour objet de faire monter en sécurité les établissements. Et c'est son point focus principal. Ça permet quand même de mobiliser, on aura sans doute l'occasion d'en reparler, mais l'intégralité de l'écosystème qui gravite autour de ces établissements, sans traiter forcément de tous les sujets de la cyber en santé. En revanche, il y a tout un écosystème autour des établissements qu'on aura l'occasion d'évoquer.
Élodie, si tu prends la suite. Élodie Chaudron, je suis directrice de programme à l'Agence du numérique en santé. L'Agence du numérique en santé, ça parle moins que le ministère. Hein, pour simplement la présenter, c'est un groupement d'intérêt public. Et on interagit énormément avec le ministère, puisqu'on est là pour décliner finalement la politique nationale numérique, donc en appui à la délégation numérique en santé que Christophe représente aujourd'hui. Et donc on a des missions historiques sur la sécurité des systèmes d'information, sur la cyber, notamment dans son rôle de régulation, puisqu'on élabore la politique générale de sécurité des systèmes d'information santé et on accompagne les établissements sanitaires, les établissements sociaux, médico-sociaux depuis maintenant de longues années. Et Olivier vous parlera du CERT Santé puisqu'il est là avec nous aujourd'hui. Et puis, ce qui est important de savoir de l'Agence du numérique en santé, c'est que elle a des membres, les agences régionales de santé, les groupements régionaux d'appui au déploiement de la e-santé qui viennent s'ajouter aux autres membres fondateurs, que sont le ministère, la CNAM et la CNSA. Et donc, on travaille avec eux, on fédère les ARS et les GRAD depuis maintenant quelques années autour de la cybersécurité. Et donc, on amène finalement à pouvoir mailler le territoire de cette politique nationale sur la cyber au niveau plus local. Voilà. Donc, Olivier va peut-être nous parler du CERT. Je ne vais pas te voler.
Donc moi, je suis Olivier Ruecross, je suis investigateur numérique au CERT Santé. Donc on est rattaché à l'Agence du numérique en santé. Et mon job, c'est deux choses. C'est globalement aider les établissements sociaux et médico-sociaux qui sont victimes d'incidents de sécurité, à la fois sur la partie enquête, donc c'est-à-dire retrouver toutes les petites miettes de pain, toutes les petites étapes de la chaîne qui ont mené à un incident, et aider par ailleurs les établissements à se protéger, à confiner, à faire face à l'incident, à mettre en place des process de crise spécifiques à leur cellule opérationnelle, justement pour être capable de repartir au plus vite, reconstruire et se remettre de l'incident le plus rapidement possible. Ça, c'est la partie visible. Et après, on fait aussi beaucoup de travail de fond, notamment sur de la prévention, sur de la veille en vulnérabilité, sur des choses plus en amont, en fait, du process pour essayer au maximum de prévenir les incidents.
Hmm. Donc, Olivier, tu interviens quand les problèmes arrivent. Élodie, tu travailles à diffuser la politique plutôt nationale. Et puis, Christophe, peut-être de la construire, si je résume un peu ça. Si je vous ai invité tous les trois, c'est parce que je pense que je vais essayer de dépeindre un petit peu ce qui se passe en partant du début, quand il y a une attaque qui se passe, et puis on va essayer de remonter tout ça. Peut-être on peut peut-être illustrer, pour mettre en situation comment ça se passe concrètement quand il y a une attaque. Alors Olivier, l'idée c'est pas de les citer, mais si tu peux nous raconter une attaque que tu as sur laquelle tu as pu intervenir. Comment ça s'est déclenché, comment ça s'est passé, est-ce que tu peux nous raconter un peu?
Oui, globalement, donc pour prendre un exemple d'incident, ce qui s'est passé, c'est que donc au niveau du CERT Santé, on arrive, on va dire, dans quelques heures après les détections initiales, puisque la détection initiale, elle se passe directement au sein des établissements. Et on a, en général, c'est les responsables des sécurités de systèmes d'information qui prennent contact et qui signalent l'incident. Alors, soit il y a des outils dédiés, soit directement nous appelons au téléphone, hein, globalement. Et qui nous disent, sur tel serveur de mon SI, j'ai des outils qui sont pas censés être là, j'ai des outils, personne ne se souvient les avoir installés. C'est des outils dont l'usage permet de faire de la prise de contrôle ou de la maintenance à distance, donc des outils avec des hauts niveaux de privilèges. Ça n'a rien à faire là, donc s'ils sont présents, c'est forcément qu'il y a eu une utilisation illégitime ou au moins un élément qu'on n'est pas capable de comprendre.
Ok, donc c'est pas le gros écran rouge, vous êtes attaqué. Alors, avec une tête de mort qui apparaît. Quoi.
Ça arrive aussi, le gros « Allô, tout est chiffré, plus rien ne démarre, au secours, on n'a plus de SI ». C'est pas le plus courant, en fait c'est le plus visible, c'est pour ça que c'est souvent des incidents qui sont extrêmement médiatisés, qui sont extrêmement impactants du point de vue moral sur les équipes, du point de vue même, dans l'imaginaire du grand public, mais en réalité c'est pas l'ensemble de nos incidents. Aujourd'hui des incidents de rançonnage majeurs sur 2023, on en est à un tout petit peu plus d'une trentaine sur les 592 incidents en tout qu'on nous a signalés sur 2023. Donc, ce sont clairement de très très loin les plus visibles, mais en réalité, c'est la partie marginale.
C'est pas les plus fréquents, ouais.
Exactement.
Ouais. Donc, je vois qu'il y a un service qui a été installé. Je sens quand même que c'est pas censé être là. C'est quoi, c'est un team viewer ou un...
Oui, c'est ça. Enfin, ouais. On veut pas citer d'éditeur, mais oui, en gros, c'est ça.
Ok. Et du coup, une fois que je vois ça apparaître. Ma première réaction, c'est j'appelle le CERT Santé.
C'est ça. Alors, dans le cadre de certaines structures, il y a aussi des prestataires privés dans la boucle, évidemment. Mais le premier réflexe, c'est j'appelle le CERT Santé, j'appelle l'équipe d'intervention. Voilà, je leur décris autant que je peux tous les éléments que je connais moi. Et nous, ensuite, donc, on reçoit cette déclaration et tout de suite, on met en place un processus d'incident où, en gros, on reprend contact tout de suite avec l'établissement, avec tous les services concernés. Donc, évidemment, le service sécurité, mais aussi tout ce qui est DSI, parfois la direction. Là, dans le cas présent, il y avait le co-directeur, par exemple, de l'établissement, etc., etc. On remet tous ces gens autour de la table et on dit, on va mettre en place un processus qui va permettre aux investigations de se dérouler. Ça, l'objectif, c'est comprendre ce qui se passe. Qui va permettre aux équipes aussi d'anticiper en fonction de la gravité de ce qui vous arrive, il va falloir plus ou moins confiner le SI, il va falloir peut-être couper certains services ou il va falloir couper certains serveurs. Là, dans l'incident qui me sert d'exemple, heureusement, c'était surtout des impacts SI, Donc voilà, quelques serveurs, voilà, peut-être des mails inaccessibles en quelques jours ou ce genre de choses. Mais sur certains incidents critiques, couper certains serveurs, ça veut dire par exemple couper les admissions patients, couper les plannings d'opération, etc., etc. Et là, on n'est pas du tout, évidemment, dans le même niveau de criticité.
Ouais, on va adapter en fait la réponse, à quel point on va essayer d'aller vite, je suppose.
C'est ça. Le fond, c'est savoir à quel point il faut aller vite, savoir à quel point aussi, en gros, quel service et quel degré d'abstraction est impliqué dans l'établissement. Voilà, est-ce que c'est purement un élément très technique qui va rester entre opérationnel? Est-ce que c'est des choses où on va aussi avoir des cellules de crise de direction, etc., etc. Et ça, c'est des choses qui doivent se décider le plus tôt possible. Et on aide les établissements aussi à déclencher ça.
Ok, donc ce logiciel est installé, on sent qu'il ne doit pas être là, on met des barrières pour éviter que ça aille plus loin, je suppose.
C'est ça.
Et après, vous arrivez à déterminer comment ça se fait que c'est arrivé là, qui l'a fait, ce genre de choses?
Alors oui, en gros, on a des outils dédiés, ça s'appelle des collecteurs, qu'on va dérouler sur toutes les machines, tous les serveurs, tous les périphériques où on estime qu'on peut trouver une trace de l'attaquant. Ou qu'on peut trouver une trace de ce qui se passe, parce que parfois c'est pas l'attaquant et c'est juste un phénomène inexpliqué, mais qui est pas forcément malveillant. Là, en l'occurrence, c'était malveillant, on le savait. Et donc voilà, on va déclencher des collecteurs qui vont aller chercher tout un tas d'informations sur les machines, donc des journaux, des logs, des traces réseau, enfin bref, ça va chercher énormément d'informations dessus. Nous, on récupère ça de notre côté, à froid, et ça nous donne en fait, on va dire, une sorte de cartographie de l'activité d'une machine ou de l'activité d'un serveur sur un certain temps. Alors il y a, entre autres, sans rentrer dans le détail, il y a tout un débat de sur combien de temps on a la vision, jusqu'à quelle date on remonte, etc., qui sont des éléments pas du tout triviaux. Parce que, évidemment, si on revient sur le cas des rançongiciels, en ce moment, on est beaucoup sur des rançongiciels qui sont sur des fenêtres très courtes. Donc on a quelques heures, maximum quelques jours, entre ce qu'on appelle le point d'entrée et le déclenchement de la charge. Mais
C'est-à-dire le
moment où on commence à chiffrer.
À partir du moment où voilà, les données sont chiffrées, je ne peux plus rien faire. A priori, c'est que les attaquants sont venus il y a 24 heures, quoi, quelque chose comme ça.
C'est pas systématique et c'est pas le cas de tous les rançongiciels ni de toutes les campagnes. Mais en ce moment, les tendances qu'on observe, c'est ça. C'est des délais assez courts entre l'entrée et le chiffrement. Mais il y a énormément d'incidents, notamment certains types de vols de données, de choses comme ça, où on a affaire à plusieurs mois. Voire, dans certains cas, même si c'est rarissime, plusieurs années.
C'est-à-dire que les attaquants sont là depuis tranquillement, depuis un an, personne ne les a vus.
Tout à fait.
Mais ils font quoi de ça? Alors, je ne sais pas si Elodie, Christophe, vous voulez intervenir là-dessus, mais on reprendra un petit peu les explications, mais il y a une question que je me pose à ce moment-là, c'est pourquoi finalement, pourquoi y a des attaquants qui mettent un logiciel pour pénétrer le serveur d'un hôpital où il y a des mails, c'est pour récupérer les données, vous avez des idées un petit peu, des motifs
Alors aujourd'hui, on estime que le secteur de la santé, plus particulièrement des établissements, n'est pas une cible en tant que telle. C'est une cible parce que c'est juste des structures qui sont vulnérables. Et donc les attaquants finalement entrent là parce que c'est plus facile d'y entrer et ils découvrent une fois qu'ils sont connectés un peu là où ils sont quelque part. Et là ils vont découvrir parfois des dossiers patients, parfois des dossiers de salariés, parfois ils sont pas du tout dans du sanitaire, ils sont dans autre chose. Et là ils essaient effectivement, et on a vu une vraie transition je pense il y a 2-3 ans, où on était plutôt sur du chiffrement simple on va dire, simple, certainement pas simple à résoudre, mais voilà, il y avait une seule couche d'attaque, on va dire, qui était ce chiffrement, et donc qui était très similaire entre tous les secteurs finalement d'activité, à maintenant une situation où effectivement on a généralement une double, voire une triple finalement attaque. On a exfiltration des données avant, et ces données sont l'objet de deux rançons, une rançon en divulgation et une rançon en restitution à l'établissement.
C'est-à-dire avec un chiffrement juste simple, j'allais dire, les attaquants peuvent ne même pas voir qu'ils sont dans un établissement, ils sont sur un serveur, ils chiffrent et puis ils disent
l'activité de l'établissement, enfin la structure qu'ils ont attaquée est perturbée et ils espèrent obtenir un rançon à travers ça. Quand ils voient que c'est des dossiers médicaux, là ils savent que ce sont des données de valeur et en plus qui ont une sensibilité médiatique, ouais, en termes d'impact, etc., qui est plus importante. Et donc là, ils essaient de demander une rançon pour ne pas divulguer ces données-là. Et après, donc, il y a de la revente. Donc ces données-là sont revendues là sur le dark web. Donc il y a des coûts dont l'estimation est variables, on va dire, et qui dépendent sans doute du contenu des dossiers, sachant que la plupart sont vendus dans des lots, hein, donc c'est des lots de dossiers qui sont vendus, hein, et les personnes qui les achètent ne savent pas, ils ont des échantillons, hein, mais ils ne savent pas forcément ce qu'il y a dans chaque dossier, et donc les tarifs ne sont pas forcément très élevés sur ces lots. On le voit notamment sur les attaques très massives qu'il y a pu avoir récemment, la tendance est de faire quand même des lots un peu promotionnels, on va dire, sur un grand nombre de dossiers. Et parfois, on va trouver, probablement que les attaquants trouvent parfois des dossiers très intéressants à exploiter, parfois beaucoup moins. Alors, à exploiter sur des actes qui peuvent être très divers, hein, ça peut être de l'usurpation d'identité, hein, tout simplement, comme beaucoup d'autres données qui sont exfiltrées. Mais ça peut être des choses qui sont sans doute plus spécifiques du monde de la santé. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent acheter ces données-là pour en faire de l'exploitation plus ciblée, sur lesquelles je m'aventurerai pas à derrière.
Mais en tout cas, on a changé un petit peu de dimension, parce que là, il y a un business qui crée vraiment sur la revente et l'exploitation de ces données spécifiquement.
Tout à fait.
C'est pour ça qu'on cherche les attaquants ici dans ton premier cas, ils cherchaient à gagner accès au serveur pour peut-être plus chercher la donnée plutôt que chiffrer tout et se dire je demandais une rançon et peut-être que je serais payé, mais je ne vais pas non plus.
C'est ça, c'est-à-dire que ce qu'il faut voir, c'est que les incidents qui font du rançonnage rapide, c'est-à-dire vraiment, voilà, on entre, on chiffre, on repart. L'objectif, c'est de fonctionner sur la loi des grands nombres. C'est-à-dire, je vais taper 100, 200, 500, pourquoi pas 1000 victimes, mettons. Voilà, il y en a peut-être à la fin que deux qui paieront, mais en fait, ça me suffit. Ça finance ma campagne d'après. Là où, effectivement, dans certains cas d'hôpitaux, on peut aussi avoir de la... Alors, c'est plus rare, et c'est beaucoup plus difficile à détecter, mais on peut aussi avoir de la menace ciblée, et là, on n'est vraiment pas sur le même type d'attaquant, on n'est pas sur le même modèle d'attaque, et on retombe sur ce côté de... Souvent, c'est des gens qui vont être là plus longtemps, qui vont observer, et aussi, chose qu'on n'observe pas toujours chez les attaquants, c'est cette notion de qualifier ce qu'ils récupèrent. C'est-à-dire que quand il y a une exportation de données, bah, sur place, ils prennent pas le temps de dire « Ah tiens, tel fichier, il a l'air bien, et tel fichier, on
s'en fout. » Ils prennent tout,
ils récupèrent chez eux, et ensuite, dans ce qu'ils prennent, dans certains cas, ils vont dire « Ok, bon, bah, dans ce qu'il y a, ça a l'air d'avoir de la valeur financière, médiatique, politique, etc. » Et ça, beaucoup moins, ou ça, c'est de la valeur, mais c'est des vieilles données, donc on pourra plus rien en faire, etc. Et quand il y a cette qualification, là, à ce moment-là, effectivement, on peut avoir un modèle de, bon, bah, qu'est-ce qu'on revend à qui, qu'est-ce qu'on peut en faire en termes d'impact, etc., etc.
Et on a une idée de qui sont derrière ces gens. Est-ce que c'est des individus plutôt localisés? Est-ce que c'est des groupes? Est-ce que d'ailleurs c'est plus organisé, moins organisé? Enfin, on a une petite idée un petit peu de qui est derrière.
Et justement, c'est le propre. Alors, c'est pas spécifique au monde de la santé, mais c'est le propre de la, on va dire, de la croissance de la sécurité dans les années 2010 et encore maintenant. C'est cette notion de professionnalisation des attaquants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup, beaucoup des attaquants qu'on observe, c'est des groupes, c'est des structures avec une organisation interne, avec parfois même un système qui est très proche d'un système d'entreprise, en fait, avec des congés, avec des salaires, etc., etc. Donc, il y a vraiment cette logique de, ce sont des structures. Alors, ils sont pas forcément 5000 par groupe, mais il y a vraiment cette logique de, bah oui, on fonctionne comme une entreprise, notre business, c'est des attaques, et on exploite ça, quoi. C'est complètement un business. C'est le business de la cybercriminalité, c'est complètement un business.
Et alors, tu as donné cet exemple d'attaque, ils arrivent à s'insérer sur un serveur. Comment, alors peut-être une question pour toi Lodi, aussi qui avait eu cette expérience, comment on ressent, on sent ça à l'hôpital, les équipes, au début c'est quoi, c'est la panique, tu sais. Concrètement, voilà, comment on réagit quand on voit qu'on a été attaqué et, est-ce que d'ailleurs ça a évolué, puisque voilà, je suppose que depuis quelques années on commence à être mieux préparé.
Oui, je pense qu'on se prépare mieux. Alors, c'est vrai que l'impact qui arrive juste après une cyberattaque dans un établissement, il est essentiellement organisationnel, parce qu'en fait, tu te trouves privé de tes outils. Depuis, en tout cas, l'essor du numérique, de l'usage du numérique avec la crise sanitaire, enfin, aujourd'hui, on ne peut plus se passer d'un système d'information dans un hôpital. Et on travaille de plus en plus aussi hors mur de l'hôpital, avec la ville, avec les autres établissements. Donc, voilà, le système d'information, c'est devenu un outil vraiment plus que quotidien. C'est notre outil d'information, notre outil de travail. Et donc, quand il y a une cyberattaque qui survient, on ne peut plus utiliser un certain nombre de logiciels. Le système d'information, il est caduc. On ne peut plus communiquer les uns avec les autres. On ne peut plus bénéficier de la donnée qui va nous permettre de traiter convenablement le patient. Là, on parle vraiment de tout ce qui est dossier médical, dossier de soins, enfin voilà, tout ce qui nous permet de travailler autour du patient. Donc on a quand même un risque assez majeur sur la prise en charge du patient, sur la qualité du soin qu'on peut lui offrir, sur sa sécurité. Et puis aussi sur l'outil de travail au global, de quand on fait fonctionner une entreprise, hein, puisqu'on n'a plus accès non plus à nos logiciels de paye, aux logiciels pour commander les repas, etc. etc. Donc voilà, impacter de manière critique au quotidien, et ce sur une durée en plus qu'on ne peut plus maîtriser, puisqu'en fait on est sur une crise qui parfois s'installe sur plusieurs semaines et plusieurs mois. Et donc, il faut être en capacité de pouvoir se réorganiser. Et c'est ce qu'on va proposer dans le cadre du programme CARE, de pouvoir donner une réponse, de pouvoir permettre aux établissements déjà d'être plus résilients face à cette cyberattaque qu'aujourd'hui, on ne maîtrise pas, puisqu'on sait que, on peut pas savoir si un établissement sera impacté ou pas. Et il sera visiblement impacté un jour ou l'autre.
C'est tout à fait juste, c'est que c'est aussi un élément, c'est que quand on pense crise de sécurité dans les hôpitaux, on pense les très gros incidents qui ont touché les très gros établissements. On va pas les citer, on les a tous, voilà. Un petit salut aux amis de Versailles. Mais en réalité, il y a aussi énormément d'établissements, c'est ce que Élodie, c'est très juste, c'est que ou rien que avoir une organisation même minimale pour faire de la gestion de crise ou pour juste prendre le sujet en charge, ça peut déjà être une démarche énorme. Enfin, on a des établissements où, en fait, on a été informé des incidents à leur place par plein de moyens détournés et où on s'est retrouvé à appeler l'établissement en leur disant « on vous appelle parce qu'on soupçonne que vous êtes victime d'un incident de sécurité » et les services en face étaient suffisamment peu formés, autant à l'aspect opérationnel qu'à l'aspect gestion de crise, qui ne nous ont pas cru. Et il a fallu qu'on perde une heure, une demi-journée, une journée pour qu'enfin, en face de nous, on ait un interlocuteur qui dise « Ah, ok, je vois qui vous êtes, je vois ce qu'il faut qu'on fasse, on va commencer à faire les choses en place. » Et 24 heures dans le cadre d'une attaque, ça peut être très marquant.
Et pour compléter là-dessus, on a la chance quand même, en plus, d'avoir un secteur qui est plutôt résilient aux crises, puisque on a des professionnels de la santé qui sont prêts à répondre à des enjeux critiques comme ça, un peu débottés, et à adapter leur organisation. Mais effectivement, il y a une limite aujourd'hui qui est compliquée à franchir. Et parfois, des toutes petites attaques qui font pas du tout la une des médias. Un simple phishing qui va aller corrompre une seule adresse, qui va servir ensuite de support à un mailing très massif, on va se retrouver avec des domaines qui sont bloqués, on peut plus communiquer par messagerie, etc. Et ça, dans l'organisation quotidienne aujourd'hui des établissements, c'est absolument critique. Donc ça fait pas la une des médias, mais toutes ces petites attaques qui arrivent tous les jours sont très perturbantes.
Et au sujet de ces attaques, tu disais que finalement c'est pas des cibles privilégiées, c'est plutôt que c'est des cibles qui étaient un peu plus vulnérables que d'autres. Peut-être avec ton exemple, je te pose un peu la question de est-ce qu'on sait comment cette attaque a été perpétrée, par où les attaquants sont rentrés, est-ce qu'il y a une faille, est-ce que c'était un phishing finalement qui a été ouvert, qu'est-ce qui rend en fait les établissements plus vulnérables?
Alors il y a beaucoup de choses. On va peut-être commencer par là. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent on a l'image dans un incident du cambriolage, c'est-à-dire une fois que j'ai cassé la porte d'entrée, j'ai gagné. La réalité, c'est qu'un incident, c'est pas une faille exploitée, en fait c'est une série de points. C'est une série de points, une série de vulnérabilités, une série de problèmes, et qui, chacun enchaîné les uns avec les autres, à la fin, font une compromission. Ce qui fait aussi, le gros avantage, entre guillemets, de ce modèle, c'est qu'il suffit d'enlever un bloc de la chaîne, et c'est terminé, l'incident s'arrête. Et du coup, au sein de cette faille et au sein de cette chaîne, il y a plusieurs éléments. Donc on va avoir des éléments très techniques, donc voilà, des vulnérabilités logicielles, des vulnérabilités éditeurs particulières. On va avoir des mauvaises pratiques qui sont liées en général à des problèmes organisationnels, donc voilà, une mauvaise gestion des mots de passe et de la gestion des identités, une mauvaise gestion, je sais pas, du renouvellement ou des mises à jour de logiciels, etc. On va avoir aussi des problèmes qui vont dire touchent plus l'organisation politique des établissements, il n'y a pas de budget, donc il n'y a pas de RSSI, donc il n'y a pas de politique de sécurité, parce qu'il n'y a personne pour s'en occuper, le technicien qui gère la mise à jour de sécurité usuel, il est là 2 jours par semaine. Et donc, chaque mise à jour, il faut attendre une semaine ou deux avant qu'il soit impliqué. On va avoir aussi des enjeux économiques, c'est-à-dire les éditeurs, les prestataires, etc., qui, eux, ont leurs propres agendas et leurs propres objectifs qui ne collent pas forcément avec les objectifs des établissements, etc. Et tout ça, ça fait une espèce de grand sac extrêmement générateur de vulnérabilité. Donc, il y a vraiment tous les échelons de la chaîne qui ont une responsabilité dans la protection, dans la prévention.
Et dans le cas de l'attaque que tu as citée tout à l'heure, moi je vois ça un petit peu comme des couches de gruyère, j'ai l'impression. C'est un peu cette image qui est souvent utilisée.
On a l'image des lasagnes, mais c'est le même principe.
Bon, voilà, on a des gruyères successives, et puis en fait il y a des petits trous, et puis il suffit que tout soit aligné pour que ça passe. Dans le cas de l'attaque que tu as citée, vous avez réussi à identifier du coup chacun de ces trous.
Oui.
Tu peux les citer.
Tous, on les a pas tous identifiés, mais on en a identifié un certain nombre. Donc déjà, il y avait des problèmes sur la gestion des identités, à savoir, en gros, il y avait une politique de mot de passe qui était en train d'être mise en place, mais qui avait 3 mois de retard parce que le budget, les gens, la charge. Il y avait des problématiques
techniques. Des mots de passe très simples.
Voilà, il y avait quelques machines qui n'étaient pas protégées correctement en termes d'accès, tout à fait. Il n'y avait pas de double authentification. Même sur les services critiques, il n'y avait pas de politique claire de mise à jour logicielle et il y avait des mauvais usages internes, ce qui fait que l'incident a mis longtemps à être détecté, en fait. C'est-à-dire que là où une installation illégitime d'un outil précis sur une machine, normalement, aurait dû popper aux yeux de la surveillance tout de suite. Là, parce qu'il n'y avait pas les bonnes chaînes de signalement, ça a mis 3, 4, 5 jours à remonter. Donc, au lieu d'avoir une machine qui avait un outil illégitime, on a eu 2, 5, 10, quelques serveurs.
Ouais, y a un sujet de qu'est-ce qui fait que l'attaque est arrivée au début et puis qu'est-ce qui fait qu'on a mis autant de temps pour le détecter, finalement. Du coup, comment il a... Vraiment, je voulais comprendre comment il... L'attaquant a pu installer un logiciel sur cette machine. Il s'est connecté et en fait le mot de passe c'était admin.
En gros c'est ça. Ouais. C'est un peu plus subtil que ça, mais oui, en gros c'est ça. C'est-à-dire qu'il s'est connecté sur une première machine d'un utilisateur, donc vraiment un poste de travail. Il a installé la machine là-dessus en mode je vais. Enfin, il a installé l'outil là-dessus en se disant ça va me permettre de me connecter localement à la machine. Et en fait, en se connectant à travers l'outil installé, il s'est rendu compte que le même utilisateur pouvait pivoter sur 3 ou 4 serveurs. Il a commencé à se connecter comme ça, à installer son outil sur les serveurs en question. À un moment, il y a un serveur où il a détecté il y a tel outil qui est installé et sur cet outil-là, il y a une vulnérabilité récente qui n'est pas patchée. Clac, élévation de privilège, et du coup je peux me pivoter ailleurs et je me réponds comme ça.
Ah oui, au début j'étais un utilisateur simple, je suis allé sur un autre poste en étant un utilisateur simple, je deviens admin et puis petit à petit on voit le...
C'est un élément aussi de l'investigation, c'est de cadrer ce qu'on appelle les étapes de l'incident, entre le point d'entrée, les éléments qui me permettent de revenir, parce que comme les incidents peuvent durer longtemps, on en parlait tout à l'heure, y a aussi cette notion de, des fois l'attaquant il dort, donc il faut qu'il puisse se déconnecter et revenir sans avoir 50 000 manipulations à refaire. Donc il y a cette notion de persistance, cette notion d'élévation de privilèges, etc., etc. Et détecter quelle opération malveillante correspond à quoi, c'est une partie du travail d'investigation.
C'est quand même un sujet assez technique. Comment, si on reprend un peu l'impact sur l'organisation, je suppose que c'est... La réponse à ça, c'est, tu l'as dit, il faut changer les mots de passe, il faut mettre à jour les logiciels, ça a un impact sur l'organisation. Comment on gère ça dans des organisations qui sont déjà aussi sous tension, comme on peut le voir dans les médias?
C'est un vrai sujet du programme CARE qu'on porte, en tout cas dans le programme CARE, c'est que la cyber, c'est pas qu'un sujet technique. C'est vraiment un sujet de strat. Il faut vraiment qu'on puisse impliquer l'ensemble des décideurs et puis toutes les organisations. Et pour ça, il faut qu'on puisse les amener, les sensibiliser. Alors, aujourd'hui, on a quand même de la chance. On est très opportuniste. Je sais pas si c'est de la chance, mais avec les cyberattaques et le retour d'expérience, il y a des pairs qui se portent ambassadeurs pour pouvoir justement... échanger leur retour d'expérience à l'ensemble des autres directions d'établissement et qui vont parler métier, c'est-à-dire pas impact technique, vraiment impact organisationnel, qui vont parler patients, qui vont parler de l'enfant qui peut pas être pris en charge dans le service de réanimation pédiatrique parce que le système d'information ne fonctionne pas, de la perte de chance pour un patient qui aura subi un accident vasculaire cérébral parce qu'il aura pas eu accès à son scanner à tel endroit. Donc là, on parle vraiment métier. Et c'est ça qui va donner de la valeur à tout ce qu'on souhaite faire aujourd'hui dans le programme CARE, qui est vraiment de pouvoir impliquer l'ensemble des directions d'établissement. établissements de pouvoir leur donner cette lecture métier qui va permettre d'orienter les projets d'établissement et d'orienter du coup les budgets d'établissement pour pouvoir donner des moyens à l'ensemble des équipes SI du système d'information et SSI de la sécurité des systèmes d'information à pouvoir proposer quelque chose de plus ajusté et de plus conforme à ce que l'on attend.
Et comment on organise ça plus à, parce que j'ai l'impression que les ceux qui vont être le plus démunis à ça, c'est aussi ceux qui sont le moins informés, qui peuvent être plus, enfin ce que tu avais dit, c'est que tout le monde est ciblé. C'est pas j'ai ciblé le plus gros parce que c'est là où il y a plus de valeur en quelque sorte pour ce quasi business que t'as décrit. Est-ce que je parlais peut-être pour toi Christophe, mais est-ce qu'il y a un écart en fait entre certains qui vont pouvoir avoir un RSSI et le recruter parce qu'ils sont assez gros, et en fait des petits centres qui n'ont pas et du coup qui sont encore plus démunis. Est-ce qu'il y a cet écart et est-ce qu'il y a une réponse à ça?
Alors effectivement, il y a un écart aujourd'hui, et c'est vrai que les plus gros établissements sont généralement des gros utilisateurs de numérique. Donc déjà, il y a des équipes numériques au sens très large qui sont plus développées. Effectivement, pour des raisons juste d'exposition, ils ont souvent été confrontés à la question de la cyber finalement, et donc ils ont sans doute mobilisé plutôt des équipes cyber, en premier lieu un RSSI, et puis parfois les équipes qui vont avec, parce que le RSSI peut pas toujours tout faire tout seul à l'échelle de leurs établissements. Donc effectivement, les plus gros sont sans doute aujourd'hui mieux préparés, on va dire, structurellement. Vient s'ajouter à ça effectivement une difficulté, donc sur les plus petits établissements, là où l'enjeu est un peu inférieur et les budgets aussi sont inférieurs, la difficulté d'aller mobiliser des ressources qui sont des ressources quand même très dédiées, très spécifiques, très spécialisées, là où il peut y avoir parfois qu'un seul ETP qui s'occupe de l'intégralité des sujets informatiques. C'est très compliqué d'aller se dire je vais doubler mon nombre d'ETP pour aller faire juste de la sécurité, dans une logique en plus complètement assurantiel, puisqu'on est sur une exposition au risque uniquement. Et c'est vrai que c'est compliqué dans les arbitrages aujourd'hui des établissements d'arriver à faire ça. Donc là, il y a un vrai enjeu, arriver à apporter des solutions à ces établissements-là, et notamment à travers la mutualisation des ressources. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Alors, on a différentes façons de le voir. Aujourd'hui, on a des structures au niveau de l'activité publique. Les GHT peuvent porter ce niveau de mutualisation-là. Il y a aussi une autre façon de le voir, c'est la mutualisation au niveau régional ou national. Et donc, on peut porter des structures qui vont aller amener de la compétence dans ces établissements qui ne peuvent pas avoir en propre, en fait, une compétence à temps plein sur le sujet. C'est pas forcément évident, parce qu'on est sur des sujets qui sont extrêmement régaliens. On touche à des choses qui sont très intimes, et on voit la difficulté parfois des établissements à nous communiquer des informations de sécurité, ne serait-ce que dans les phases de remédiation. Donc c'est vrai que là, c'est parfois un peu compliqué de se dire qu'on va se mettre dans une logique de mutualisation et d'avoir une personne qui va travailler dans 3, 4, 5 sites et qui va avoir accès à des informations sensibles, c'est vrai, mais qui va permettre en fait de faire des tâches qu'on ne saurait pas faire sans lui.
Oui, c'est vrai, parce que si on... Je tire un peu le trait, mais si je sais que quand je vais, dans un établissement, je vois qu'il y a un logiciel qui est installé, c'est bizarre, il ne devrait pas être là. Mais je sais que si je vous appelle, en fait, ça va bloquer mon service pendant 2 semaines. J'ai pas la compétence, ça va prendre du temps, etc. Est-ce qu'il y a des réactions de, finalement, je préfère peut-être pas en parler, ou finalement, est-ce que ce serait pas plus facile aussi de repasser à un papier et crayon, parce qu'en fait, je vois que depuis que je passais au numérique, je sais pas s'il y a ce genre de réaction, mais ça me paraît assez naturel. Est-ce que finalement, on est prêt, dans certaines structures, de passer le pas, c'est pas la question que je me pose, avec ces réactions.
Je vous donne mon avis, après je passerai la parole à Élodie et Olivier, mais enfin, moi j'ai l'impression qu'il y a peu de structures aujourd'hui qui peuvent décider de faire ce choix-là. De la choix de la décroissance numérique, c'est assez compliqué, honnêtement, aujourd'hui. Le faire de manière ponctuelle pour répondre à un incident, oui. Se dire qu'on va, tant pis, c'est pas grave, et puis on va repasser au papier crayon, ça, aujourd'hui, je pense que c'est complètement impossible pour quelles que soient les structures.
Tout à fait. Pour rebondir sur ce que dit Christophe, alors déjà, sur les établissements de santé, ça, on va pas dire jamais, parce qu'il ne faut pas dire jamais, mais non, ça arrive pas. Sur les microstructures, ce qui peut arriver, le cas le plus classique qu'on ait d'établissements qui disent on s'en fout. En gros, c'est dire ça me coûte moins cher de renouveler tout mon parc que d'essayer de remédier. C'est-à-dire, en gros, c'est arriver sur des microstructures de dire, ben, je prends toutes mes machines, je les brûle et j'en rachète d'autres. Et dire, bon, ben, la perte de données, elle n'est pas suffisamment significative pour que ce soit grave, etc. Ça arrive dans des toutes petites structures où, globalement, les usages numériques, soit ne sont pas très développés, soit sont cantonnés à des aspects très supports, mais sont en fait assez peu liés au métier de santé. Mais non, effectivement, dans les établissements, ça fait longtemps qu'il y a une prise de conscience de tout ce que le numérique leur apporte en termes d'organisation, d'efficacité, de quantité de patients intégrés à l'heure, etc. Donc il n'y a pas tellement ce débat de bah, « allez, je reviens à comme on c'était il y a 30 ans ».
Ouais, finalement, on se dit que le jeu en vaut pas la chandelle, quoi.
C'est ça. Mmh. Et d'autant plus qu'il y a aussi une chose, c'est qu'aujourd'hui, toute la strate, alors c'est des choses qu'on voit un peu moins en incident, mais toute la strate biomédicale est de toute façon basée sur un étage technologique et numérique. Donc de toute façon, aujourd'hui, sans informatique, il y a factuellement plein d'examens qui peuvent pas être faits. Sans informatique, il n'y a pas de scanner, il n'y a pas d'IRM, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de transfert de résultats de radio. Et ça, papier, crayon ou pas, c'est de facto, les outils ne peuvent pas être opérés sans numérique.
C'est difficile de faire un scanner avec un crayon.
Ouais, c'est ça. Il faut être un peu concentré, quoi.
Et tu évoquais, Christophe, que c'était effectivement, c'est un arbitrage de risque. C'est une histoire aussi d'assurance derrière. Comment c'est concrètement, c'est ce que je suppose qu'il y a un coût du coup d'assurance qui est lié à ça, que les hôpitaux doivent aussi piloter. C'est un c'est des coûts qui doivent aussi exploser. Comment arbitrer finalement, comment les décideurs d'ailleurs, est-ce que c'est les établissements qui décident quelle assurance ils vont prendre, comment ils pilotent ça, est-ce que, ou au contraire, c'est géré plutôt à l'échelle régional, voire national, en fait, on a un risque national de cyber, donc en fait, c'est ça l'assurance.
Alors, c'est bien au niveau de chaque établissement, au même titre qu'il a des assurances pour tout son risque incendie, pour son risque sur les personnes, etc. On part d'une situation qui était extrêmement compliquée. Hein. Il y a 3 ans, il était extrêmement difficile de trouver des assureurs qui acceptent de couvrir le risque cyber. Je ne vais pas dire que ça s'est amélioré, parce que ça reste encore aujourd'hui difficile. On va dire qu'on est plus maintenant dans une difficulté d'accessibilité, parce que les coûts, effectivement, de primes sont importants, et difficile à mettre en regard, en plus de l'impact, finalement. C'est un secteur économique un peu particulier, parce que l'assurance, on va être plutôt sur versant financier. Hein, et aujourd'hui, l'impact premier, qu'a rappelé Elodie, c'est l'impact sur la prise en charge des patients. Et ce coût-là, il est extrêmement difficile à estimer. Aller estimer la perte d'activité de l'établissement, évidemment, c'est très simple. On n'a pas pu faire de scanner pendant une semaine, on sait le décompter. C'est quoi l'impact en termes de perte de chance et comment on le valorise? Ça, c'est évidemment extrêmement complexe. Donc oui, il y a une question assurantielle dans les établissements, mais qui finalement ne porte que sur le volet financier et qui ne couvre pas un des sujets principaux pour nous, qui est l'aspect sanitaire, et qui, pour le coup, est majeur. Et aujourd'hui, se dire que pendant... on a évoqué le cas du diagnostic, mais je vais prendre l'exemple qui vient de mon histoire. Hein, mais en radiothérapie, aujourd'hui, un traitement de radiothérapie ne peut pas être donné sans avoir un support informatique. Un établissement qui, pendant un mois, ne peut pas démarrer sa radiothérapie, sachant qu'on a quand même peu d'établissements, hein, qui font de la radiothérapie aujourd'hui, notamment sur certaines techniques, ça veut dire que les patients vont perdre des chances aujourd'hui. Donc voilà, ça, je pense que ça ne peut pas se chiffrer, ça ne peut pas s'assurer. Donc d'où l'importance, hein, d'aller éviter que ces incidents arrivent et avoir des moyens de recours quand ça arrive. Et parce que forcément, il passera toujours des attaques. Hein. Mais au moins se prémunir des attaques les plus courantes. Juste pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure sur les attaquants. Aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup d'attaquants qui sont professionnalisés au sein de groupes. Malheureusement, on a vu aussi que les outils sont packagés de plus en plus. Et ça ouvre la porte quand même à avoir quelques attaquants parfois assez, on va dire, peu professionnels, comme on l'a vu encore récemment. Voilà, ça peut se cristalliser autour de 2 ou 3 personnes qui trouvent des outils sur Internet et qui décident de les appliquer. Hein, voilà.
Donc, il n'y a pas trop d'intelligence, quoi, derrière.
Exactement. Ouais. Donc, il y a les deux. Hein, et donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué.
Sur le modèle d'incident, c'est aussi un élément qu'on voit, alors je dirais pas apparaître, mais plutôt réapparaître un peu, c'est le signalement justement aussi des micro-incidents qui sont plus des incidents internes, mais qui en fait sont des incidents de sécurité aussi, tout ce qui est le vol de matériel, l'employé pas content qui se barre avec le contenu de son poste de travail, ce genre de choses, mais qui sont, pareil, qui sont pas spécifiques au monde de la santé, mais parce que c'est le monde de la santé, bah, ça a un impact beaucoup plus fort qu'ailleurs.
Ah oui, oui. Et je voulais venir un petit peu du coup sur le programme CARE et puis du coup comment on a bien compris voilà à l'échelle locale sur un établissement qu'est-ce qui se passe, comment on y répond et comme c'est un problème qui est structurel, l'idée c'est de répondre de manière aussi nationale. Alors tu m'avais dit Élodie de manière aussi plus, on est vraiment dans le curatif, hein, c'est voilà il s'est passé ça, on réagit, on essaie de comprendre ce qui s'est passé et puis on met des actions. Mais est-ce qu'on peut faire aussi plus du préventif, enfin, je crois que c'était un des sujets. Bah, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus le programme CARE et puis comment ça va avoir un impact ?
Pour rebondir sur tout ce qu'on s'est dit précédemment, donc on a deux grandes ambitions dans le programme CARE. La première, c'est effectivement d'accompagner les établissements à être plus résilients. On l'a compris, ils vont être cyberattaqués. Donc qu'est-ce qu'on fait pour les aider à se préparer et à s'organiser pour faire face à cette cyberattaque. Donc là, on a tout un pan de travaux qui sont déjà en cours. Hein. On les accompagne, on a une campagne aujourd'hui forte d'exercices. Hein. On va les accompagner à s'entraîner en cas de cyberattaque et dans la continuité, à élaborer des plans de continuité et de reprise d'activité. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets en place dans mon établissement? Puisque c'est quelque chose qui est très propre à l'établissement. Il y a beaucoup d'hétérogénéité hein, au sein de l'écosystème. Quelles sont mes activités essentielles? Je les identifie. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets en place dans mon établissement au cas où cette activité-là, elle est impactée? Ce système est impacté. Donc là, il y a tout un pan, effectivement, de travaux. On les accompagne. On met des outils à disposition et puis quelques financements aussi pour généraliser tout ça. On s'appuie notamment, donc, sur les régions, hein, pour décliner tous ces outils-là au niveau local. On essaie de...
Je t'interromps, mais tu as un exemple, justement, de d'outils qui peuvent permettre de réagir
Aujourd'hui, les outils sont essentiellement les kits qu'on met à disposition, des kits hein, avec des scénarios, des chronogrammes bien spécifiques sur les exercices de crise qui se jouent dans les établissements. Donc, tout le monde se rejoint sur un moment T et donc s'exerce à faire face à une cyberattaque. Donc, ça met, dans un scénario,
on se met en situation
et on joue du coup la cyberattaque. Donc, ça permet de se préparer. C'est comme on ferait un exercice incendie.
Ouais,
hein.
C'est ce que j'allais dire.
On les a tous vécus en entreprise. Et puis le plan de continuité reprise d'activité, c'est vraiment être en capacité d'écrire la manière organisationnelle dont on va s'organiser le jour où on sera effectivement cyberattaqué. Donc de pouvoir le poser sur papier et de pouvoir impliquer l'ensemble des parties prenantes, tous les métiers hein, autour de la table, de savoir exactement ce que je dois faire au moment T lorsque ça survient. Dans le cadre de cette préparation-là, on a voulu aussi intégrer, on va dire, tout un pan le volet de la cybersécurité dans la démarche qualité des établissements, puisque c'est quelque chose qui est aujourd'hui très bien appliqué. Les établissements vivent des certifications tous les 4 ans, et donc on a travaillé avec la Haute Autorité de Santé à intégrer des critères dans le manuel de certification de ces établissements sur le volet cybersécurité numérique. Donc, ce qui nous permet justement de pouvoir plus les impliquer leur donner, on va dire, un autre niveau d'acculturation et d'appropriation sur ce volet-là. Et le deuxième grand pan, la deuxième grande ambition finalement du programme CARE, puisqu'on a évoqué justement ce sujet d'accompagner les établissements à se préparer, à être plus résilients, à mieux s'organiser en cas de cyberattaque, on a évoqué la dette technologique, hein, le fait que les établissements aujourd'hui souffrent effectivement d'un retard et donc il y a tout un travail qui est réalisé autour de la sécurité opérationnelle et notamment un dispositif qui va permettre de lancer des appels à financement dits de rattrapage qui vont permettre aux établissements justement d'œuvrer et de mettre un certain nombre d'actions correctives en place pour pouvoir atteindre des niveaux un peu plus conformes à ce que l'on attend.
Ce que tu as évoqué, hein, le fait de mettre à jour les logiciels, enfin, c'est des trucs qui sont assez connus, mais qui prennent du temps, des ressources, et que les établissements pas forcément.
L'objectif est bien hein, qu'on arrive à épargner aux établissements toutes les attaques opportunistes. Ça ne les mettra pas à l'abri d'une attaque d'un attaquant extrêmement professionnalisé qui a décidé de cibler particulièrement tel ou tel acteur. Mais encore une fois, ce n'est pas ça notre menace principale aujourd'hui. Notre menace principale, ce sont bien des attaques opportunistes. Et aujourd'hui, elles passent justement parce qu'on n'a pas ces éléments technologiques-là.
Ouais, le niveau de base est un peu trop bas. Il faut déjà surélever avant de cibler. Oui, on comprend bien. Ouais. Je sais plus mon... Qu'est-ce que j'avais dit déjà? Oui, c'est quoi un peu la réaction face à ce programme de la part de... Du coup, c'est un programme que vous allez voir qui, concrètement, les directeurs d'hôpitaux, les RSSI, les...
Alors, effectivement, le programme, aujourd'hui, il s'adresse aux établissements, d'accord? C'est un programme qui est avant tout à destination des établissements. Et donc, il faut arriver à convaincre un peu tous les acteurs, puisque en fait, il y a des actions qui s'adressent un peu à tous les acteurs. On a des actions, effectivement, qui sont plutôt dans la sphère SSI, et donc là, nos interlocuteurs privilégiés sont les RSSI, des actions vraiment qui sont dans le domaine du pilotage de la sécurité, les plans d'action, la mise en place des politiques de sécurité interne, etc. Donc ça, c'est un premier volant. Évidemment, tout ça se décline derrière dans des actions qui sont généralement techniques et gérées par les DSI, des établissements, donc il faut évidemment qu'on arrive à les embarquer également. Et tout ceci demande de l'argent. Alors certes qu'on apporte pour partie dans le programme, hein, c'est l'objet du financement, hein, c'est d'arriver à repasser ces marges d'escalier qui viennent compenser cette dette technologique qui a pu être accumulée pendant quelques années. Mais ça ne sera pas suffisant et il est important, hein, qu'on continue à avoir dans les établissements des budgets qui permettent de maintenir à niveau et de, évidemment, de faire progresser, puisque la plupart des établissements ont quand même une ambition digitale qui est importante. Donc il est important qu'ils pensent à financer les actions de sécurité aussi en parallèle de ces développements dans la sphère digitale.
Oui, parce que on a effectivement un peu une course sur deux volets. D'un côté, les établissements qui cherchent à de plus en plus se numériser, ouvrir aussi le système d'information à d'autres acteurs, peut-être des start-up. Enfin, personnellement, c'était mon cas et j'étais très content de pouvoir aussi... Ça booste énormément l'innovation de pouvoir permettre à une boîte qui veut faire de l'IA sur de l'imagerie, de pouvoir accéder à ces données, de pouvoir le faire tourner sur des serveurs à l'hôpital. Donc d'un côté, on a ce besoin d'ouvrir et de l'autre côté, il faut aussi fermer. Donc il y a un peu une course à deux vitesses. Comment un peu arbitrer ce... Alors c'est une question peut-être un peu vaste, mais est-ce qu'il y a des choses concrètement, des bonnes pratiques, est-ce qu'il faut empêcher... est-ce qu'on peut bosser avec des startups uniquement si elles sont normes ISO 27001? Est-ce qu'on accepte plutôt d'aller vers du cloud parce qu'on se dit que c'est des infrastructures qui sont peut-être déjà au niveau par rapport à ce qu'on disait? Il n'y a pas cette marche. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui permettent justement de gérer un peu cette double enjeu, sécurité et innovation?
Vaste sujet. Il y a beaucoup de questions dans la question.
Je sais. Oui.
Déjà, il y a des notions, effectivement, sur l'aspect communication avec les startups, les PME, les éditeurs, tous les acteurs technologiques tiers, on va les appeler comme ça. Il y a effectivement beaucoup d'enjeux de se mettre à l'état de l'art et faire de la régulation. C'est-à-dire, alors, soit définir effectivement des normes, soit définir des partenariats de pour être capable de donner de la visibilité à tel outil, il faut qu'il respecte telle et telle exigence de sécurité. Donc, il y a ça. D'un point de vue très opérationnel, on va avoir beaucoup de notions, enfin, plus techniquement, on va avoir des notions de mettre en place des moyens de filtrage, de surveillance, faire du contrôle d'accès, faire de la gestion d'identité, donc des choses, des mesures très opérationnelles et très techniques de si l'hôpital A veut discuter avec l'hôpital B, il faut des comptes dédiés, il faut une appli de centralisation de d'authentification dédiée, etc., etc. Et après, l'idée, c'est aussi forcément s'adapter aux usages, mais autant que possible, l'objectif, c'est les mesures de sécurité doivent s'adapter aux besoins des usages, pas l'inverse. C'est-à-dire que la sécurité ne doit pas devenir un frein à « tel service dont on a besoin ou telle fonctionnalité qu'on aimerait mettre en place ». En termes de sécurité, en termes de sécurité, on ne sait pas le faire, donc on ne le fait pas du tout. L'idée, c'est vraiment fonctionner main dans la main pour que l'un serve l'autre.
C'est-à-dire que vous intervenez aussi dans ce cas-là ou...
Alors, nous, au sein du CERT, non. On est vraiment... Un CERT, c'est vraiment un groupe d'intervention et de gestion. Mais il y a des services et il y a des acteurs du monde de la sécurité dans cette job.
Je reviens sur la question de la régulation. On a vécu un premier changement il y a quelques années qui a été le RGPD. Aujourd'hui, nos données sont des données nominatives. À ce titre-là, elles sont soumises au RGPD. En plus, ce sont des données sensibles. Donc déjà, ça a été un premier élément, on va dire, de régulation sur l'aspect de cette gestion contractuelle avec les tiers qui a été importante puisque, pour le coup, ça a inclué un certain nombre d'éléments de sécurisation de cette donnée-là, mais pas de sécurité en tant que telle. Ça, en revanche, ça va arriver maintenant dans un nouveau texte, hein, qui est la directive NIS 2, et pour le coup, qui va permettre de gérer cet aspect-là. Et ce levier réglementaire, il n'est pas suffisant, parce qu'effectivement, avant tout, ce qu'on cherche, c'est quand même arriver à faire fonctionner la machine. Hein. Le levier réglementaire, il est vraiment là pour se dire que tous les acteurs qui sont autour de la table, bah, ils sont concernés par le levier réglementaire. Là, aujourd'hui, c'est un peu compliqué, puisqu'il peut y avoir des réglementations qui s'imposent, par exemple, à un établissement et pas à une start-up ou à un éditeur. Et c'est vrai que c'est un petit peu difficile d'arriver à trouver des arrangements, on va dire, contractuels, qui répondent parfois à des besoins très orthogonaux.
C'est vrai que je me posais la question tout à l'heure quand tu décrivais l'attaque. Finalement, qui porte la responsabilité de genre d'attaque ? Est-ce que c'est... du coup, l'éditeur tiers qui peut être en fait la porte d'entrée, est-ce que c'est la DSI qui n'a pas la bonne politique de mot de passe ? Est-ce que c'est. Et est-ce que du coup tout le monde se sent concerné ? Enfin, ce que tu dis.
Alors, je pense que lors d'un incident, tout le monde se sent concerné au moins au moment de l'incident.
Ouais.
Ça devrait être le cas. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est pas décrit, et ça pour le coup c'est un des apports de NIS 2, hein. Il y aura une responsabilité pour le coup, hein, de mise en œuvre pour toutes les entités qui seront régulées, il y en aura beaucoup, et en particulier beaucoup d'établissements sanitaires. Il y aura une obligation, hein, de mettre en œuvre un certain nombre de mesures, y compris des mesures contractuelles avec les tiers, enfin ça, tout ça fait partie du scope, alors qu'aujourd'hui il n'y a pas d'obligation quelque part. Donc, quand on tombe dans l'aspect on va dire RGPD, il y a bien une obligation qui est faite aux responsables du traitement de mettre en œuvre un certain nombre de mesures. Et pour le coup, donc, s'il y a des divulgations de données, c'est au titre du RGPD, pour l'instant, que un établissement attaqué pourrait être mis en cause, ou un sous-traitant, ou etc., selon la contractualisation qu'il y avait eu. Bientôt, il y aura aussi le versant NIS 2 qui permettra d'outiller l'aspect plus sécurité, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est plutôt sur l'aspect de la responsabilité du traitement, donc de la finalité, et pas des moyens mis en œuvre pour sécuriser le dispositif. Et on sait que dans les architectures très complexes qu'on a aujourd'hui, tu as évoqué le cas, hein, des startups qui viennent travailler parfois en collaboration avec un éditeur historique, dans un établissement ou un consortium d'établissements. Bref, on peut avoir des montages contractuels qui sont extrêmement complexes. Et c'est vrai qu'aller identifier des responsabilités aujourd'hui, ça relève un peu de la gageure parfois. Là, c'est vrai que le fait que un peu tout le monde soit régulé va simplifier notablement les choses.
Et du coup, NIS 2, c'est un texte qui va arriver, c'est déjà en vigueur
Alors la directive a été votée il y a longtemps au niveau européen, et la transposition doit être faite pour octobre 2024. Hein, c'est l'ANSSI qui s'occupe de cette transposition, puisqu'elle est complètement transsectorielle. Après, il y a une différence d'application selon les secteurs d'activité. Et il y a des secteurs hautement critiques dont fait partie de la santé.
Et du coup, comment concrètement ça va se mettre en place Est-ce que c'est les DSI des établissements qui vont devoir derrière s'occuper de s'assurer que toutes les contractualisations faites avec les éditeurs elles sont conformes? Est-ce que ça va plutôt être directement les éditeurs qui va tirer un petit peu tout ce chantier réglementaire?
Il y a un peu tôt, puisque la transposition n'étant pas encore votée,
on sait pas encore.
Je pense que c'est un peu tôt pour prononcer sur les modalités pratiques de déploiement.
Ouais. Mais en tout cas, voilà, ce cadre réglementaire va un peu, au moins, ça donner des grilles de lecture, quoi, comment réagir, là où aujourd'hui, on réagit de manière assez pragmatique, mais il n'y a pas vraiment le cadre légal autour.
Il existe un cadre réglementaire aujourd'hui, mais qui a aussi besoin, on va dire, d'être remis à jour et d'être remis par rapport aux enjeux de la sécurité de 2024, quoi.
Ouais, évidemment.
Et c'est pas NIS 2 a pas inventé le concept d'opérateur régulé, typiquement.
Non. Il y a une version antérieure, hein, qui existait. Il y en a d'autres régulations qui s'appliquent à certains acteurs déjà. Hein. C'est pas la seule. C'est lui que son périmètre va être tellement large qu'elle va nous permettre de changer un peu la façon d'envisager la régulation du secteur.
Ok. Justement, en parlant de cette directive qui est européenne, comment ça se passe chez nos voisins? Est-ce que finalement, on est tous les établissements en Europe sont aussi vulnérables et attaqués? Comment on réagit? Est-ce qu'il y a des différences de réaction en fonction des pays? Et est-ce qu'il y a des actions plus communes européennes qui sont en train d'être mises en place face à ça?
Alors, au niveau opérationnel, il y a des choses. Au niveau opérationnel technique, il y a des choses. Il y a des volontés, par exemple, de mutualiser des outils ou de mutualiser des moyens de surveillance entre différents pays d'Europe. Il y a évidemment des conférences et des salons de spécialistes qui sont internationaux et qui permettent de beaucoup échanger autour de ça. Après, c'est aussi, il y a aussi beaucoup de fonctionnements qui sont assez typiquement locaux. Parce qu'on disait, on dépend beaucoup du cadre réglementaire, on dépend beaucoup du cadre légal, on dépend beaucoup des infrastructures politiques aussi, puisque chaque pays a son fonctionnement, ses ministères, ses choses comme ça, et ces entités qui sont responsables de la gestion de la sécurité, il n'y a pas forcément des homologues du CERT Santé partout, par exemple, et il n'y a pas forcément des homologues similaires à l'ANSSI partout, etc., etc. Donc il y a aussi beaucoup de fonctionnements qui sont assez typiquement locaux et qui rendent complexe de faire des parallèles. Par contre, voilà, d'un point de vue technique, il y a de plus en plus de volonté, notamment sur tout ce qui est mutualisation d'outils et mutualisation de surveillance.
Mais est-ce que tout le monde est... Tu as cité peut-être quasi 600 attaques en France déclarées l'année dernière, je crois. Mm-hmm. Est-ce que c'est aussi large dans les autres pays?
On n'a pas forcément beaucoup de chiffres partout, mais sait, c'est assez comparable.
C'est assez généralisé. Ouais.
Ouais,
c'est assez
généralisé. Les hôpitaux français ne sont pas plus ciblés que les autres.
Effectivement, il n'y a pas des statistiques tenues à jour par secteur dans tous les pays. En revanche, on voit sur des pays qui tiennent ça, typiquement aux États-Unis, il y a une part importante des attaques. Et pour le coup, qui sont peut-être même plus ciblés aux États-Unis, puisque là, il y a une potentielle marchandisation plus simple, on va dire, de l'attaque qui est possible. Mais voilà, sur les pays où on a des éléments de comparaison, c'est très comparable.
Il y a aussi un élément, c'est que en France, on a un système de santé publique qui vaut ce qu'il vaut, mais qui globalement est bien implanté, assez solide, et qui fait qu'il y a quand même pas mal de canaux pour remonter les informations de gestion d'incidents, pour remonter les déclarations et choses comme ça. Là où dans d'autres pays, il y a eu beaucoup plus de privatisation de la santé, et où des fois, l'information de tel hôpital a été victime d'un incident, elle n'est pas forcément triviale à aller chercher, en fait.
Ouais. Est-ce que je suppose que c'est une obligation légale, non, de déclarer ce genre de cas?
Mais en France, oui.
En France, oui.
Pour les établissements.
Pour tous les établissements, publics comme privés.
Publics comme privés, ouais. Ouais, évidemment. Et est-ce que vous voyez un écart aussi entre public et privé sur la manière de réagir sur... d'ailleurs, le programme CARE, il est à destination de tous les établissements. Tous les établissements, oui. Est-ce qu'il y a une différence entre public et privé? Est-ce que on pourrait se dire peut-être qu'ils ont la gestion des ressources est différente, plus autonome? Est-ce que du coup il y a des...
C'est compliqué de faire des vérités générales pour le coup. Il y a un peu aussi la logique de chaque établissement et chaque incident est unique.
Ouais.
Donc dans les logiques de gestion et de prise en charge, c'est compliqué de prendre des postures générales entre public et privé.
Et une question que je me posais, c'était sur la... Tu disais, il y a des outils techniques qui sont mis en place à l'échelle européenne. Une des questions que moi, je me suis beaucoup posée, c'est le cloud. Donc, si je reprends mon exemple ma première startup, on avait besoin de faire tourner un algo d'IA, on devait installer une machine à l'hôpital. Alors, en dehors du délai que ça demandait, parce que c'est très nouveau, avoir une machine avec un GPU, Linux, ce genre de choses. Sur le coup, on a pu l'avoir et le projet s'est bien passé. Mais du coup, enfin, honnêtement, on était trois ingénieurs sortis d'école. Je ne vais pas dire que je suis non plus le meilleur en cybersécu, mais j'essaie de faire attention. On peut se dire que donner l'accès à des infrastructures qui sont sur site que la DSI ne maîtrise pas encore parce que c'est nouveau, ça peut créer un risque. Là où le cloud, en mutualisant les ressources et en s'assurant que ce soit info géré par le cloud provider en l'occurrence, est-ce que c'est pas une réponse aussi à ça à l'échelle européenne? Alors, ce grand rêve d'avoir un cloud européen, ce genre de choses.
Je vous vois venir. Oui.
Est-ce que c'est un axe que vous allez aussi chercher de les mutualiser les ressources aussi informatiques et infrastructures?
Alors, moi, je vais faire une réponse d'opérationnel. Du coup, le cloud, se développe dans plein d'usages de plein de sortes dans les établissements. Mais en fait, c'est pas une solution en tant que telle. C'est pas magique. C'est-à-dire que, tu le dis très bien d'ailleurs, c'est-à-dire que en fait, quand on contracte un service de cloud chez, on peut en citer, mais tout un tas d'hébergeurs européens, il faut déterminer concrètement qui va faire quoi. S'il y a un incident sur telle machine, est-ce que c'est l'hébergeur qui s'en occupe? Est-ce que c'est l'établissement? Comment ça marche pour ouvrir des accès aux prestataires, etc. Et en fait, assez rapidement, en tout cas nous, de notre volet de gestion d'incidents, on se retrouve peu ou prou confronté au même problème, voire parfois au problème un peu plus compliqué parce qu'il y a des acteurs en plus. Et pour le coup, là, on peut aussi assez vite se retrouver dans des marasmes où on a des hébergeurs, on a plein d'hébergeurs européens avec lesquels on travaille régulièrement et qui, on va dire, ont une vraie, enfin, une vraie dynamique et une vraie volonté de travailler avec nous dans le cadre de gestion d'incidents. Là où, effectivement, sur des hébergeurs internationaux un peu plus gros, eh ben, leur dire qu'il faut fournir tel log à tel moment parce qu'on en a besoin dans le cadre d'un incident, ils sont libres de nous répondre non. Et en fait, le cadre légal fait qu'on n'a pas le droit de faire plus que leur demander gentiment, quoi. Donc ça intègre des problématiques en plus. Ça apporte aussi effectivement à plein d'établissements des services rapidement déployables, mais c'est pas une solution
magique qui
résout tout.
Je voudrais ajouter juste un point là-dessus, c'est qu'effectivement l'aspect cloud nous apporte une solution, on va dire, de résilience de certains des services qui sont dedans, qui restent disponibles. En revanche, une des questions qu'on a sur les attaques majeures, c'est qu'on coupe, même pas majeures, parfois lors de vagues d'attaques qui arrivent de certains pays, on a eu l'occasion dans ces dernières années d'avoir de tout d'un coup, à l'occasion de l'actualité internationale, d'avoir des vagues d'attaques qui arrivaient. Dans ce cas-là, on peut bloquer complètement les flux, parfois au niveau des établissements, se couper d'Internet volontairement, parfois, alors qu'on continue à prendre en charge les patients localement. Donc on ne peut pas juste se dire que le ces patients est hébergé dans le cloud. S'il n'est plus disponible sur le site, ça ne répond pas à l'enjeu. Hein. Donc il y a clairement un sujet, parce que le cloud aujourd'hui a sa place dans l'écosystème des établissements. C'est un vrai moyen de scalabilité sur plein de sujets. On l'a évoqué, justement, sur l'IA. Hein. Aujourd'hui, c'est difficile pour un établissement d'aller financer ça en interne, hein, intégralement. Donc, faire appel à des ressources plus volatiles dans le cloud, c'est pertinent. C'est pertinent sur les aspects de résilience, se dire qu'on a des bouts de sa messagerie peut-être hybridés, par exemple, ne serait-ce que ça dans le cloud, c'est sans doute pertinent. En revanche, ça répond pas à ces enjeux-là de se dire il y a des moments où on risque d'être coupé complètement du monde et on devra continuer à prendre en charge les patients localement.
Le chemin critique, il faut qu'on puisse l'assurer dans tous les cas.
Et il faut aussi retenir une chose, c'est, alors, souvent quand on pense cloud, on pense aux très gros hébergeurs internationaux, on va dire, mais il y a aussi plein d'hébergeurs plus locaux ou plus petits et qui eux-mêmes peuvent être victimes d'incidents, en fait, et qui du coup peuvent impacter les services peuvent impacter les établissements parce qu'eux-mêmes sont victimes d'incidents.
C'est aussi un risque en plus,
c'est bien. C'est ça, ou d'incidents de production.
Et sur les, on avait évoqué sur le cadre réglementaire, donc NIS 2, il y a depuis quelques années, alors je ne sais plus, ça fait 2 ans le Ségur, pour notamment accélérer la digitalisation des services et l'interopérabilité entre ces services, hein, pour que le logiciel qui me sert de facturation, celui qui va me servir pour mon échographie, etc., ben, puisse parler entre eux parce que je ne vais pas retaper tout le temps les mêmes choses. Il me semble qu'il y a une deuxième vague du Ségur qui va arriver. Est-ce que là-dedans, il y a aussi des enjeux qui vont contribuer à solidifier, sécuriser ces systèmes? C'est une vraie question sur quoi je vois.
Oui, effectivement, hein, aujourd'hui, donc, la deuxième vague du Ségur est en train de se préparer. Et oui, aujourd'hui, arriver à solidifier cet écosystème-là, qui est effectivement construit de beaucoup d'applications aujourd'hui qui doivent discuter entre elles. Donc on en revient à cette problématique d'ouverture, hein, et puis parfois avec des applications qui ne sont pas dans la même entité. Hein, donc on doit discuter parfois avec un système qui est dans un autre établissement, parfois un système national, etc. Donc il est essentiel effectivement que les transformations numériques qui sont portées dans le cadre du Ségur s'accompagnent, hein, d'éléments autour de l'interop et de la sécurité et de l'éthique, hein, ce sont les trois piliers sur lesquels on s'appuie. Et donc aujourd'hui, hein, dans les prérequis, les contraintes qui vont être imposées, il y aura des éléments qui vont être relatifs à la sécurité des solutions. Là, on parle de solutions numériques, là pour le coup, hein, pas de question d'infrastructure, mais bien sur les solutions numériques à destination de la santé, sur lesquelles il y aura un certain nombre d'éléments qui seront demandés.
Ouais, je pensais notamment à, tu citais tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'authentification, de double authentification sur... je pense que c'est des choses qui vont permettre de...
Alors ça, c'est déjà réglementaire, pour le coup.
Oui, c'est déjà un cas, oui. Mais oui, c'est ce genre de... ça peut être ce genre de mesure de sécurisation, même des accès, des points réseau, des choses comme ça.
Oui, on m'avait parlé d'une fois d'une notion Zero Trust. Alors, je ne sais pas si ce mot te dit quelque chose. Enfin, le concept de dire... si je suis dans un réseau local,
où je me dis, ben là, je suis protégé parce que je suis chez moi. En fait, même mes deux PC qui sont connectés là à côté de l'autre ou qui théoriquement n'ont pas accès à Internet, ce genre de choses, je vais quand même les sécuriser et faire en sorte que, en fait, ils n'aient pas confiance en quelque sorte de discuter l'un avec l'autre. Est-ce que c'est aussi une. Alors, il y a des grands groupes hein, qui mettent en place ce genre de politique de sécurité, de zero trust, de dire tous mes devices n'ont confiance en personne, en quelque sorte, même si je suis dans un espèce d'environnement clos que non, j'ai l'impression de maîtriser. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous voyez ou pas ou c'est, parce que j'ai l'impression que c'est on parlait tout à l'heure de faire monter la baseline, là, c'est un peu le niveau d'au-dessus. Est-ce que c'est la vision d'après ou pas encore?
Alors, en réalité, Zero Trust, contrairement à ce que ça laisse penser, c'est plus une notion de gouvernance en fait, qu'une notion opérationnelle. Parce que dire, dans un parc, les deux machines ne doivent pas se faire confiance. Ok, très bien. Soit, mais du coup, concrètement, ça veut dire quoi? Donc, nous, on va beaucoup plus réfléchir à quelles sont les solutions pour les isoler en termes de réseau, surveiller ou couper certains flux, ou ne permettre que certains flux, gérer les politiques d'accès, etc. Mais au final, le Zero Trust, c'est plus une forme... C'est un peu à l'image du Security by Design. C'est-à-dire, c'est une forme d'objectif, c'est une forme de politique de travail, mais après, il faut voir comment ça se décrit en mesures concrètes, en mesures opérationnelles et en mesures techniques.
Mmh. Ouais, c'est pas forcément un plan que je peux appliquer.
Oui, c'est ça. C'est pas un outil magique de « Ah, mon outil, les Zero Trust, c'est bon, j'ai plus de problème. »
C'est plutôt une vision de changement de paradigme. Hein. Historiquement, faut être conscient, dans la plupart des établissements, le réseau, c'était une sorte de réseau patatoïde avec l'intégralité des ressources qui étaient mises à l'intérieur, sans aucun contrôle, hein, pas de différence de réseau logique ou de réseau physique, pas de filtre, pas de règles, et c'est parce qu'il n'y avait pas cette logique-là. Le Zero Trust vient nous dire, attention, quand vous intégrez une ressource, par défaut, dites-vous que vous ne devez pas avoir confiance en elle, et dites-vous quels sont les services auxquels elle doit avoir accès, quels sont les services qu'elle expose et à qui, et en fonction de ça, déterminer son emplacement sur le réseau, les droits qui doivent être ouverts, etc. Et ça, c'est vrai que c'est un changement de pratique, alors qui est déjà inséré dans les pratiques des établissements hein, depuis quelques temps, mais qui doit s'installer et s'inscrire dans la durée.
Alors, je voulais, pour ouvrir, peut-être parler des JO, je vois que tu... Olivier qui ferme, je dis, non, pas ça.
Non, mais c'est... Non, mais c'est... J'en avais pas encore parlé aujourd'hui, donc
tu m'as dit, t'as un compteur, non le...
Oui, c'est ça, j'ai mon compteur personnel, je compte le nombre de jours depuis le 1er janvier où on ne m'a pas parlé des JO, et actuellement, je suis à zéro.
Je suis vraiment désolé.
En revanche, on est à 115 jours de l'ouverture des JO.
Enfin non, je suis à 1, mais c'est parce que le 1er janvier, je dormais.
La question assez naturellement qu'on peut se poser, c'est avec les JO, est-ce que on peut être plus ciblé de ces cyberattaques, en particulier les cibles plus vulnérables? Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on anticipe quelque chose ou pas d'ailleurs? Je ne sais pas qui veut répondre. Question magique.
Je pars des éléments de réponse.
Alors je te laisse répondre.
Il y a plusieurs choses en fait. Donc effectivement, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un modèle de menace qui est spécifique aux grands événements. Donc on s'attend, on a pu observer par avance, enfin on a pu observer précédemment certains types d'incidents ou certains types d'attaques qui ont tendance à, entre guillemets, on va dire marquer le coup. Donc qui peuvent générer de la visibilité ou qui peuvent générer de l'impact, qui sont souvent des incidents assez, assez restreints et assez, on va dire, relativement faciles à anticiper. Après, le fond aussi, opérationnellement, le fond par rapport aux JO, c'est essayer de trouver un dosage de oui, parce que, comment dire, il y a un effet de parce que tous les services se mettent en état d'alerte, renforcent les moyens de surveillance, se préparent aux attaques, se préparent aux incidents, ces choses comme ça. Il peut aussi y avoir un risque de basculer dans l'effet inverse de le moindre incident qui va se passer dans la période, tout de suite on va dire mais c'est un incident pour les JO. Non, c'est un incident parce qu'il y a des incidents en fait. Et donc la réalité de à quel point effectivement on va avoir plus de menaces ou plus d'incidents que sur un fonctionnement nominal, ça c'est beaucoup beaucoup plus difficile à évaluer.
Pas tellement dans ce monde.
C'est bon.
Alors, il faut se préparer. Ouais, c'est ça, il faut se préparer. Le sujet, c'est que ça reste un événement majeur sur tous les plans, en termes d'organisation au niveau national, et y compris sur le versant sanitaire, et y compris sur le versant cyber du versant sanitaire. Donc il n'y a pas doute qu'il faut se préparer à cet événement-là, qu'on a la chance d'accueillir. Mais effectivement, à côté de ça, on est dans un niveau de menace qui est élevé déjà aujourd'hui, et voilà, on doit s'y préparer comme on s'y prépare déjà tous les jours, pour tous les autres incidents.
J'avais pas l'impression de chômer avant les JO.
Voilà, ah, ça y est, faut faire quelque chose. Bon, allez.
C'est aujourd'hui le moment. Ouais, ouais, mais ouais, après, effectivement, c'est vrai qu'il y a certains types d'incidents, et plus précisément certains types de menaces, qui sont un peu plus typiques des grands événements et voilà, et qui nécessitent des mesures techniques précises. Voilà, parce qu'il y a certains groupes qui, justement, vont vouloir peut-être un peu plus cibler des établissements de santé, des choses comme ça, parce que c'est très impactant et très visible.
Mais ce que tu disais tout à l'heure, c'est que enfin, on peut dire que les hôpitaux doivent pouvoir aussi fonctionner en plan blanc, sans accès à Internet. On pourrait avoir une mesure assez extrême de dire, bon, allez, tous les hôpitaux maintenant, pendant les JO, ou en tout cas, on s'assure qu'ils peuvent travailler dans ces conditions-là, sans Internet, dans des... je me posais la question, est-ce qu'on pourrait aller jusque-là, ou est-ce qu'il y a un entre-deux, en fait, ou pas, en fait, on dit...
C'est plutôt sur l'entre-deux, mais c'est en cours de préparation, et il y aura des communications plus précises pendant les...
C'est la clé de gestion des incidents, pour le coup. Enfin, nous, c'est quelque chose auquel on est confronté en permanence, c'est de doser, en fait, doser la réaction, parce que souvent, dans le cadre d'incidents, le fameux mode papier-crayon ou mode dégradé, en fait, c'est des conséquences de l'attaque, mais des fois, c'est des conséquences de confinement qui ont été mis en place, compte tenu de ce qu'on observe, on va tout bloquer, on va couper Internet, ou alors on va isoler certains serveurs, etc. Et il y a des enjeux de dosage et d'équilibrage, de à quel point il faut couper pour être sûr qu'il ne se passe pas plus grave, mais pas trop fort non plus pour pas tout arrêter en termes de SI.
Et vu que tous les établissements auront fait leur PCRA d'ici là... Un plan de continuité et reprise d'activité.
Et puis pour rebondir là-dessus, hein, effectivement, il ne faut pas oublier que notre objet est avant tout la continuité sanitaire. Mmh. Et donc c'est vrai qu'il ne faudrait pas qu'avec des mesures de remédiation un peu trop radicales, on en vienne à perturber finalement des prises en charge sanitaires qui auraient pu se dérouler sans ça. Donc c'est vrai que le curseur va être... on va voir bien le travailler quand il y aura des incidents. Voilà, c'est l'enjeu est avant tout sanitaire.
On sent bien, de toute façon, la tension elle est là entre je dois couper le service parce que faut pas que la tasse se propage, et en même temps ça va avoir des impacts sur le soin. Du coup, faut bien expliquer le métier, l'impact sur le métier, donc arbitrer tout ça, c'est... Il n'y a pas de solution magique, comme tu dis.
Non, mais pour le coup, on a la chance parce que quelque part, hein, les exercices de crise qui ont été réalisés, en fait, ils exposent déjà les directions d'établissement à ce même arbitrage. Alors certes, on sera peut-être pas sur le même niveau d'arbitrage là. Hein, peut-être qu'on aura des choses à gérer au niveau régional ou au niveau national, mais cette problématique d'arbitrage sur la continuité de l'activité versus les actions de remédiation qu'on doit lancer, c'est un arbitrage aujourd'hui que les directions générales qui ont été confrontés, en réalité, ont dû prendre, et sur lesquels elles s'entraînent, tous les établissements s'entraînent lors des exercices de crise.
Et d'ailleurs, pose la question, ces exercices de crise, ils sont prévenus? Tout le monde est prévenu?
Non, les participants ne connaissent pas le scénario, en revanche.
Ok. Bon, c'est comme, préparez-vous, aujourd'hui, il va peut-être y avoir un exercice, mais vous ne savez pas à quelle sauce vous êtes mangé, quoi.
C'est ça. Sur l'interruption des services, c'est toujours très sympa pour la tension et le sommeil de prendre des décisions comme « Bon, on va couper ce serveur-là, quel serveur d'admission des patients aux urgences ?» Voilà, il se passe toujours un petit quelque chose, quoi. C'est vraiment excellent pour le sommeil, je conseille.
Vous avez vu des... C'est quoi les réactions, d'ailleurs, Bon, ils connaissent les... Enfin, ils savent qu'il va y avoir un exercice, mais comment... Comment les gens réagissent, en fait, à ça?
C'est assez radical, généralement, et c'est vraiment une prise de conscience faite pour tous les gens qui participent à ces exercices. Le fait d'être... évidemment, ça dépend des scénarios qui sont proposés. Il y a des scénarios qui peuvent consister juste en une indisponibilité d'un seul service, et parfois avec une coupure complète du système d'information. Mais alors, d'une part, ça permet de tester des procédures. Donc là, finalement... C'est quelque chose qui est à peu près connu, il n'y a pas trop de surprises, on va dire. En revanche, c'est sur le fait d'être démuni en termes de moyens de communication, par exemple. Ça, c'est vraiment un choc de se rendre compte de ça. Ou de l'impact de l'arrêt d'un petit système d'information sur l'activité complète de l'établissement, qui est très mal comprise parfois. Parfois, il y a un tout petit logiciel qui tourne dans un coin, mais qui en fait fait quelque chose qui est crucial pour tous les autres. Et typiquement, ce genre d'impact est très mal connu des directions générales, des présidents de CME, des directions qualité, etc. Il est probablement connu des équipes informatiques, mais qu'ils le savent, mais sans forcément mesurer l'impact que ça. Et le fait d'avoir un exercice de crise qui met ça en évidence, c'est vraiment un choc de se comprendre qu'on est face à un organisme, et que ces systèmes d'information sont un organisme, et que parfois, quelque chose qui est touché à un bout de l'organisme, hein, quand on se fait marcher sur le pied, on pleure, bah, c'est pareil. Et ça, c'est vraiment essentiel, je pense, dans la capacité des directions générales, enfin, tous les acteurs qui sont réunis lors de ces exercices de crise, à comprendre l'impact.
En tout cas, c'est le retour d'expérience qu'on a eu suite à la première vague dans la campagne de généralisation. C'est-à-dire que ce sont les établissements qui sont venus vers nous pour nous dire comment est-ce que vous pouvez nous aider cette fois à écrire nos plans de continuité de reprise d'activité. On peut pas s'arrêter là. Vous avez fait jouer un exercice de crise, on a des kits, c'est super. Alors déjà, on veut en rejouer un. Et puis maintenant, on veut que vous nous aidiez finalement à travailler ensemble, les techniques, les décideurs, etc. Et qu'on se mette d'accord pour... Qu'est-ce qu'on met en place comme procédure dégradée? Quelle est la méthode? Donnez-nous un appui méthodologique. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à produire ces kits de plans de continuité, reprise d'activité, et aujourd'hui à les décliner de manière assez généraliste dans l'écosystème. Donc voilà, plutôt très bien accueilli.
Ouais, c'est marrant parce que c'est comme des exercices d'incendie, sauf qu'on va vraiment mettre un incendie. Quoi. On voit comment les gens réagissent et là on se dit ah oui,
on fait les deux. J'ai trouvé que. Les participants à des exercices d'incendie sont rarement convaincus de ce qu'ils sont en train de faire. Ouais. Sur les exercices d'évacuation, par exemple. C'est un peu moins le cas en santé, parce que quand on fait des évacuations verticales, par exemple, des choses comme ça, c'est un peu plus physique. Donc on est un peu moins impliqué. Là, honnêtement, les exercices, les kits de simulation qui sont disponibles, et la mise en situation qui est faite par les animateurs, quelque part, de ça, mettent vraiment en situation de tension la cellule de crise. C'est extrêmement compliqué. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez la situation avec des téléphones qui sonnent de tous les côtés en essayant de collecter des éléments sur l'impact sanitaire de tel ou tel incident technique. Les informaticiens qui expliquent des trucs dans leur jargon à eux qui est incompréhensible. Le directeur qui essaie de prendre des décisions en fonction de ça. Enfin, c'est vraiment une vraie situation de tension et qui est vécue comme telle.
Ouais, ouais, effectivement, il y a souvent un côté un peu ludique. Qui est à la fois profitable parce que ça facilite l'appropriation, mais qui par contre, du coup, surtout sur des cellules de crise assez haut niveau, peut favoriser un peu le côté de ne pas prendre le truc au sérieux. Et donc, des fois, voilà, faut un peu accompagner de non, mais l'objectif, c'est de se préparer, quoi.
Ouais, vraiment par la pratique. On sait pas, on vous montre des slides sur... là, c'est vraiment, on vit le truc et on sent la tension et c'est ça qui fait que ça... Mais de toute façon, j'ai l'impression que c'est un peu la tendance du marché de la cyber de manière générale, où il y a 10-15 ans, c'était on a des normes, des politiques de qualité, faut les appliquer. Ah, en fait, on fait des simulations. Là, je reçois un mail, je clique dessus. Ah, vous vous êtes fait avoir, en fait, c'est un mail de phishing. Allez voir les SI pour faire taper sur les doigts.
Il y a une grosse notion de sensibilisation.
Mais ouais, la sensibilisation par c'est limite un jeu, hein, mais ça peut être.
Ça fonctionne bien. Mais même niveau, enfin, nous, pour le coup, au cœur du CERT, la sensibilisation, c'est une part. Non négligeable de ce qu'on fait. Et alors, donc voilà, il y a tout ce qui est les exercices de crise, les campagnes de phishing, mais même des choses très concrètes, très mises en situation, voilà, des audits sur site. Alors, côté CERT Santé, on fait pas forcément d'audit physique, mais tout ce qui est, voilà, les pentests de on va dans les locaux, etc., ça donne tout de suite un côté très concret et très, voilà ce qui va se passer, on a les gens en face. Et ça favorise justement cette prise de conscience.
Oui, d'ailleurs, c'est une question que je me posais. Vous ne faites pas de pentest, justement, d'aller sur site et d'essayer de rentrer pour un peu tester les défenses qu'il y a
donc,
sur...
Donc si, de l'audit technique, enfin du pentest, on en fait. C'est juste que nous, on ne fait pas ce qu'on appelle du pentest physique. C'est-à-dire qu'on n'envoie pas des gens qui vont se faire passer pour des livreurs UPS pour aller livrer des gens dans les salles serveurs. Mais par contre, du pentest, si, ça fait partie de nos activités. On fait de l'audit technique.
Il y a des attaques physiques qui...
Alors, du coup, on rejoint le modèle d'incident dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément des attaques physiques de quelqu'un qui vient avec sa clé USB pour chiffrer tout le SI. Ça...
À la James Bond,
qui vient avec son hélico et sa corde et machin. Non, pas trop. Par contre, ce qu'on arrive comme attaque physique, c'est des gens qui ont accès à des salles de soins ou à des salles serveurs où ils ne sont pas censés être. Voilà, on mentionnait tout à l'heure l'employé pas content qui part avec les données commerciales de X éditeurs sous le bras. ou tout simplement comment dire, ou tout simplement des fois des patients qui sont loin avec du matériel, ça arrive aussi. Donc voilà, il y a plus ce genre de choses sur les événements physiques internes, mais oui, non, par contre, les gens qui arrivent et qui, sur la base d'une clé USB, sont là pour brûler tout, non, ça on n'en voit pas.
Ok, bah, je propose peut-être de conclure, ça fait déjà un très, très, très riche épisode. Voilà, bon, le pari c'était de partir vraiment du début et puis de remonter jusqu'en haut, donc j'ai l'impression que c'est plutôt réussi, donc bah, merci déjà à vous trois. Comment on peut trouver le programme CARE, vous suivre, est-ce qu'il y a des j'ai écouté cet épisode, j'ai envie d'en savoir un peu plus concrètement, peut-être sur ces exercices, retrouver ces kits, tout ça, où est-ce qu'on peut vous retrouver?
Alors pour le programme CARE sur le site de l'ANS, de l'Agence du numérique en santé, c'est simple, hein, Agence du numérique en santé, cybersécurité, programme CARE, et tout est dedans, les kits, les modalités pour pouvoir candidater aux différents appels à financement, les offres cyber qui sont déployées sur l'ensemble du territoire, tous les outils de sensibilisation, bref, tout y est, et aussi une petite adresse pour nous contacter si besoin d'en savoir plus. Okay.
Côté Certes Santé, pareil, la plateforme Cyberveille, en fait, qui est la plateforme web standard du Certes Santé. Après, on est pas mal actifs sur une page LinkedIn. Et puis, donc voilà, c'est principalement par là qu'on communique publiquement.
Ok, ça marche. Écoutez, merci beaucoup à tous les trois
pour l'invitation.
Merci.
Plus qu'à vous dire bon courage pour les JO.
Je rigole, bien entendu.
Les Jeux Olympiques de la cyber.
Ça serait bien une époque comme ça. Merci à vous. Et puis pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. Prochain épisode, on va continuer un petit peu sur ces sujets de cyber et notamment de confidentialité des données. Je n'en dis pas plus. Vous verrez le prochain épisode. À bientôt.